بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو الخامس من شهر جمادى الثاني عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس السابع في قراءة الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 5 avril 2014 et nous entrons, inshallah, aujourd'hui dans le 7e cours du livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, intitulé Les chapitres dans la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous avons parlé des persécutions qu'avaient subies les croyants, particulièrement les premiers parmi eux, celles que le peuple de Quraysh leur a infligées et suite auxquelles beaucoup de compagnons ou certains des compagnons sont morts, radiyallahu anhum, pour leur soumission à l'ordre d'Allah, pour leur suivi des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu que suite à ces tortures infligés à ces croyants, faibles, qui n'avaient personne pour les défendre, ils ont pris la décision de fuir en direction de l'Abyssinie, tout cela dans le but de préserver leur religion. Non pas par peur pour ce bas monde, ou bien par peur de perdre l'argent, non pas pour toutes ces choses-là, mais tout simplement pour préserver leur religion, pour fuir avec leur foi, pour aller dans un endroit où ils auront la possibilité et la capacité de suivre ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a enjoint et leur a dicté comme ordre, azza wa jal. Et le prophète alayhi salatu wa salam les a orientés vers l'Abyssinie, ce qu'on appelle actuellement l'Éthiopie. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait dans cette même terre un roi qui était de confession chrétienne, il avait lu l'évangile et personne chez lui n'était opprimé. On ne lésait personne quand on vivait chez lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés vers l'Abyssinie, chose qu'ils ont faite. Ils ont embarqué en mer, ils ont traversé la mer Rouge, Al-Bahr al-Ahmar, dans des bateaux pour la somme d'un demi-dinar, comme on l'a vu. Et une fois, ou tout de suite après l'embarquement, les bateaux ont vogué et ont pris la direction de l'Abyssinie et les kuffars sont arrivés à leur trousse. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, avait décrété que les kuffars, ce jour-là, n'allaient pas arriver à rattraper les croyants. Ensuite, les croyants sont arrivés en Abyssinie. Et c'est ce qu'on appelle la première émigration. Puis, après un certain moment, une rumeur s'est répandue disant que les croyants de la Mecque se sont réconciliés avec les habitants de cette ville de la Mecque et que les Mécois ont adhéré à l'islam. Et à cause de cette fausse rumeur, ceux qui avaient émigré sont revenus à la Mecque pour s'apercevoir qu'en fait ce n'était que des mensonges, des rumeurs infondées. Et ils ont vu que les koufars ont redoublé dans l'hostilité qu'ils avaient à l'égard des croyants. Alors ils ont fait ce qu'on appelle la deuxième émigration vers l'Abyssinie. Et suite à cette deuxième émigration, une délégation de Quraysh a été envoyée à cet empereur qui est Ashama. Son vrai prénom c'est Ashama, et sinon on l'appelle Najashi. Najashi c'est le nom que l'on l'utilise pour désigner tout empereur, tout roi de l'Abyssinie, de l'Éthiopie. Donc ils se sont dirigés vers lui, ils lui ont apporté des cadeaux, et ils ont d'ailleurs offert un cadeau à chacun des partisans de Ashama, tout cela dans le but que ces derniers intercèdent chez Ashama, l'empereur de l'Abyssinie, en la faveur du peuple de Quraysh, pour qu'à la fin, Asḥama décide de rendre les croyants au peuple de Quraysh. Mais lui était quelqu'un qui n'était pas injuste. Il a demandé, avant de le faire, d'entendre la version de ces gens. Il s'est dit, des gens sont venus chez moi. Pourquoi est-ce que je vais les expulser? Alors que s'ils sont venus chez moi, c'est parce qu'ils m'ont fait confiance. Je me dois de leur accorder l'hospitalité et au minimum d'écouter leur dire. Il s'est mis à écouter les compagnons. Et c'est Ja'far, radiyallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris la parole pour réciter sourate Maryam, dans laquelle Isa est décrit. Après avoir entendu cette sourate, dans d'autres versions qui sont authentiques, Asḥama a fondu en larmes. Il a fondu en larmes et il a dit, ces deux prophètes sortent de la même niche. C'est-à-dire, ils ont tous été envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala. Il a donc accepté et il s'est soumis par la suite à Allah Azza wa Jal en devenant musulman. Ensuite, les, on va dire 80 compagnons à peu près, sont restés en Abyssinie sous la protection de Asḥama. Suite à tout cela, le peuple de Quraysh a commencé à être pris de la peur. Quelle peur? La peur de voir l'ennemi, qui sont les musulmans, ils sont leur ennemi, puisqu'ils n'ont pas la même croyance qu'eux. La peur de voir l'ennemi accroître, la peur de voir le nombre de l'ennemi grandir. Ils ont vu effectivement que la plupart du temps, quand une personne entendait le message de l'islam, cette dernière adhérait à ce message directement et se soumettait à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ils ont donc décidé après tout cela, par peur que plus tard les musulmans ne reviennent à la Mecque pour la conquérir et que celle-ci tombe dans les mains des musulmans, ils ont commencé à passer à une autre étape qui est celle de la pression, celle de la pression qui va être sur ceux qui défendront les musulmans. Et c'est ce chapitre qu'a cité l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, intitulé « Faslun muqata'atu Quraysh li bani Hashim wa bani al-Muttalib ». Chapitre « Quraysh rompt avec les bani Hashim et les bani al-Muttalib ». Les bani, c'est-à-dire la descendance, ceux qui sont issus de Hashim et ceux qui sont issus de al-Muttalib. Ces deux hommes, Hashim et al-Muttalib, sont deux frères. Ils ont aussi deux autres frères, Abdou Shams et Naoufal. Ce sont donc quatre personnes, quatre hommes. Le premier s'appelle Hashim, le deuxième Muttalib, le troisième Abdou Shams, le quatrième Naoufal. Ils se sont divisés en deux. D'un côté, on a Hashim et al-Muttalib. De l'autre côté, on a Abdou Shams et Naoufal. Dans quoi est-ce qu'ils se sont divisés en deux? Dans la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Abdou Shams et Naoufal, leur descendance, ils n'ont pas pris la défense du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Par contre, la descendance de Hashim et celle de Muttalib, qui sont ceux qui sont visés par les paroles d'Ibn Kathir, quand il dit Quraysh rompt, c'est-à-dire a rompu les liens avec Banu Hashim, la descendance de Hashim et la descendance de Muttalib. Pourquoi est-ce que ce peuple a rompu les liens avec eux? Parce que eux ont toujours secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et été à ses côtés. Que ce soit dans l'époque anti-islamique et même après son envoi en tant que messager. Certains parmi ces personnes ont adhéré à l'islam, ils sont devenus croyants. D'autres n'ont pas adhéré à l'islam, mais ils ont quand même soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux parmi les croyants qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont fait à la recherche de la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui n'ont pas adhéré à l'islam et qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont fait non pas à la recherche de la récompense d'Allah, mais par amour pour leur tribu. par amour pour leur tribu, car les Arabes défendaient leur tribu, défendaient leur peuple. Et donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de leur peuple, ils ont pris sa défense, malgré le fait qu'ils les contredisaient dans leur dogme, dans leur foi. Donc, quand Quraysh a vu que la descendance de Hashim et celle de Al-Muttalib, donc ces deux tribus ont pris la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont décidé de rompre les liens avec eux, de les boycotter et de leur affliger un blocus et d'empêcher les gens de s'approcher d'eux, de leur apporter des vivres et toutes ces choses-là. Tout cela dans le but que ces derniers donnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quraysh pour qu'il l'exécute. Et l'islam avait pénétré toutes les maisons, une majeure partie des maisons de Quraysh. À un point où, comme nous allons le voir, des grands compagnons se sont convertis à l'islam, comme Hamza, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam paternel, le frère de son père, et en même temps son frère de lait. Également, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui était avant un grand ennemi de l'islam, puisque lui-même infligeait des sévices et des tortures à ceux qui suivaient l'islam. Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala les a guidés, cela a été une grande douleur dans le cœur du peuple de Quraysh. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit, donc comme d'habitude, on lit en arabe et ensuite en français, inshallah. ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشل الإسلام. فلما رأت قريش ذلك ساءها وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة ويقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف ويقال بل النضر بن الحارث فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: affligé par la propagation de l'islam et la multiplication des conversions, dont celle de Hamza, l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les membres de la tribu Quraysh décidèrent de s'unir contre les deux clans descendants de Abdou Manaf, les Bani Hashim, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Bani Al-Muttalib. Selon le pacte qu'ils conclurent, ils ne devaient ni leur prêter allégeance, ni se marier avec eux, ni leur adresser la parole, ni même s'asseoir avec eux, tant qu'ils ne leur livreraient pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils rédigèrent les termes du pacte sur un parchemin qu'ils accrochèrent au toit de la Kaaba. Celui qui fut chargé de mettre par écrit les clauses de ce pacte est, dit-on, Mansour ibn Ikrima, ibn Amir, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf. Selon d'autres, il s'agit de An-Nadr ibn al-Harith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah contre lui, si bien que sa main en sera paralysée. Donc, ici Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous enseigne la cause de ce blocus, la cause de ce boycott infligé aux croyants par le peuple de Quraysh, infligé aux croyants, mais aussi ceux qui ne sont pas croyants parmi la descendance de Banu Hashim, d'où est issu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Banu al-Muttalib, parce qu'ils ont pris la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont ces causes? La conversion de gens qui chez eux étaient des têtes, des gens émérités, des gens respectés, reconnus, redoutables. Parmi ceux-ci, nous avons Hamza, donc le du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous avons aussi Omar qui n'a pas été cité dans ce passage. Au sujet de Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui nous est rapporté par son fils, Abdullah, fils de Omar, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk, Abi Jahl, Amr ibn Hisham ou Umar ibn al-Khattab. Ô Allah, renforce l'islam par ton préféré de ces deux hommes, Abu Jahl ou bien Umar ibn al-Khattab. Abu Jahl est une tête des mécréants de Quraysh et des polythéistes. Il est une personne reconnue chez eux, respectée. Tout comme l'est Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sait pertinemment, de par la sagesse et l'intelligence qu'Allah, azza wa jal, lui a donné, que pour que son prêche puisse se propager et prendre une grande ampleur, il a besoin de soutien. Il a besoin de soutien physique, il a besoin de soutien moral, il a besoin de la présence de personnes qui vont être la cause de la propagation de sa religion. Et donc, il a regardé quelles sont les personnes les plus respectées, pour s'apercevoir qu'il y a Abu Jahl et Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, était un homme redouté. Il était connu des gens, de par sa corpulence, à un point où, quand les gens le voyaient dans les marchés, ils pensaient qu'il était sur le dos d'une monture, tellement il était grand et fort, radiyallahu anhu. Également parce que les gens avaient peur de lui. Donc il a dit: « Oh Allah, renforce cette religion par le préféré de ces deux hommes, soit Abu Jahl ou bien Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. » Et Allah, tabaraka wa ta'ala, de par sa sagesse, a fait le choix de guider à l'islam Umar, radiyallahu anhu. Également, Aïcha, radiyallahu anha, nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et cela est plus propre à Umar: Allahumma a'izz al-islam bi Umar ibn al-Khattab. Ô Allah, renforce l'islam par Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anha. Umar, radiyallahu anha, était un homme dur envers les musulmans. Avant qu'il n'adhère à l'islam, il était injuste envers les musulmans. À un point où son cousin, qui est Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, qui fait partie des 10 compagnons à qui on a fait la bonne nouvelle de l'entrée au paradis de leur vivant, et qui a épousé Fatima, la sœur de Omar, radiyallahu anhu, donc c'est en même temps son cousin, mais aussi son beau-frère. Il dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, donc c'est ici le cousin et le beau-frère de Omar, qui s'appelle Saïd ibn Zayd, qui va nous parler d'un des souvenirs qu'il a concernant la dureté de Omar. Et cela est rapporté par al-Bukhari. Il dit: « Inni la adhkuruni wa ana muthaq ay marbout bil hibal, au thaqani ay rabatani Omar ala islami. » Il dit: « Je me souviens d'un jour où j'étais accroché par des câbles. C'était Omar qui m'avait attaché à cause de mon islam. » Donc voici ce que faisait Omar aux gens qui se convertissaient à l'islam. Ici, lui nous dit qu'il se souvient du jour où Omar n'était pas croyant. Il était un ennemi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à un point où il l'avait attaché à des câbles et l'avait empêché de bouger, empêché de manger, empêché de se déplacer. Tout cela parce qu'il était musulman. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui est d'ailleurs le plus grand savant des compagnons dans les causes des révélations de versets, il connaît pourquoi les versets sont révélés quand il y a des causes. Ce même compagnon disait: Lam nazal a'izzatan mundu aslama Umar. Nous n'avons cessé d'être forts et de devenir plus forts quand Allah a guidé à l'islam Umar, radiyallahu anhu. Umar, radiyallahu anhu, quand il s'est converti à l'islam, sachez avant tout que quand un des habitants de Quraysh décidait d'entrer dans cette religion, il le faisait en cachette. Puis quand le peuple de Quraysh apprenait la nouvelle, qui pour lui est terrible, qu'un homme est entré dans l'islam, il se précipitait immédiatement vers ce même homme pour le faire souffrir, pour le frapper, pour le violenter, pour l'opprimer. Tout cela dans le but qu'il décide de sortir de cette religion. Et il faisait cela à tout le monde. Et les compagnons se cachaient. Quand Omar radiallahu anhu s'est converti à l'islam, c'est lui qui allait frapper à la porte des gens pour leur dire, c'est Omar ibn al-Khattab, j'atteste que nulle autre divinité qu'Allah mérite l'adoration et que Mohammed est le prophète et messager d'Allah, messager et serviteur d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À un point où il est monté dans une... Tout d'abord, il frappait dans les portes et les gens disaient, qui est-ce? Omar, c'est Omar, je suis venu t'annoncer que je suis musulman. Et alors, il fermait la porte et il ne lui ouvrait pas. Puis, il est monté sur une colline, il a crié, il a appelé les gens. C'était après la prière du Fajr, ou après le lever du soleil, pardon, parce que les prières ont été révélées bien après ça. C'était après le lever du soleil, il est monté sur une colline et il a appelé les gens, en hurlant, et en leur disant, Omar ibn al-Khattab s'est converti à l'islam. Il atteste que seul Allah a le droit à l'adoration et que Mohammed est son serviteur et son messager. Et alors, la plupart des gens du peuple de Quraysh se sont précipités sur lui et ils se sont mis à le rouer de coups. Et lui se défendait autant qu'il le pouvait, car il était fort, radiyallahu anhu. Et cela jusqu'à ce que le soleil se soit complètement levé. C'est-à-dire à peu près pendant 2 heures, il s'est bagarré, radiyallahu anhu. Jusqu'à ce qu'un homme est arrivé qui était connu chez le peuple de Quraysh et qui a intercédé pour Omar en disant à ces gens qui le frappaient de le laisser. Et alors ils l'ont laissé. Et après la conversion de Omar, radiyallahu anhu, Hamza s'est converti à l'islam, radiyallahu anhu. Ce qui a renforcé considérablement les musulmans, puisque à partir de la conversion de Omar et Hamza, deux hommes braves, forts, courageux, les musulmans pouvaient appliquer leur religion devant tout le monde, alors qu'avant ils ne pouvaient pas le faire. Et certains disent, parmi les historiens, que les musulmans sortaient et ils formaient deux lignes, et chacune était dirigée par Hamza et Omar. Et cela devant le regard de Quraysh qui était impuissant et qui ne pouvait rien faire. Donc, à cause de tout ça et de tout ce que vous venez d'entendre, ils ont décidé de passer à une autre étape qui est celle du boycott, du blocus, dans le but que les musulmans délaissent leur religion. Et si vous méditez bien cette biographie qu'on étudie, puis vous comparez ce qui s'est passé à ce qui se passe au jour que nous vivons avec les musulmans, vous verrez que l'histoire ne cesse de se renouveler. L'histoire se renouvelle. Et cette biographie, on ne la lit pas juste parce que c'est une histoire passée. On la lit aussi pour en tirer des leçons. Regardez ce qui se passe avec le prophète, alayhi salatu wassalam. N'est-ce pas ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui? Dans beaucoup de pays musulmans, les musulmans ne sont-ils pas privés? N'inflige-t-on pas des blocus, du boycott aux musulmans? On leur empêche leur vivre, on leur empêche de manger, de boire. Pourquoi? Parce qu'ils disent « La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah », parce qu'ils veulent se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est donc l'histoire qui se renouvelle. Et qu'est-ce qui va aider les musulmans à affronter ces situations de la meilleure manière? Qu'est-ce qui va les aider à patienter, à endurer, à savoir comment se comporter, si ce n'est l'étude du comportement qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ces choses lui sont arrivées, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont eu entre eux un pacte. Ils ont eu un contrat entre eux qu'ils ont écrit sur comme il le dit ici, un parchemin. Barakallahu fik. Ils ont écrit un pacte sur un parchemin dans lequel ils se mettaient d'accord pour priver les musulmans de leurs biens, de leur nourriture, de leur vivre. Et que si un de ces gens-là qui avait signé ce pacte allait aider les musulmans, alors il lui serait arrivé telle et telle chose. Le meurtre, les menaces et toutes ces choses-là. Et c'est donc ce qui s'est passé. Ensuite, ils ont pris ce parchemin et l'ont attaché au-dessus de la Kaaba, de sorte à ce qu'il soit vu par les musulmans, dans le but qu'il soit pris par la peur, mais aussi par les kuffars, ceux qui défendaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et encore ceux qui avaient signé ce pacte, dans le cas où, s'ils avaient envie de rompre ce dernier, ils le verraient ou le voyaient accroché au-dessus de la Kaaba, et alors ils ne s'avanceraient pas pour rompre ce pacte. Et certains ont dit que celui qui a rédigé ce dernier, ou ces clauses, c'est Mansour ibn Ikrima. D'autres ont dit que c'est une autre personne qui s'appelle Nadr ibn al-Harith. Quoi qu'il en soit, ce pacte a été rédigé et accroché au-dessus de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala contre l'homme qui a rédigé ce pacte. Et le peuple de Quraysh redoutait les invocations du prophète alayhi salatu wa sallam. Il savait que quand le prophète alayhi salatu wa sallam levait ses mains pour invoquer Allah contre un injuste, il savait que la réponse allait être proche. Et ça a été le cas pour cet homme qui a rédigé le contrat. Quand il a invoqué Allah Azza wa Jal contre lui, ses mains se sont immédiatement, elles se sont immédiatement paralysées. Et le peuple de Quraysh, juste avant de rédiger ce pacte et de prendre cette décision, de bloquer les musulmans, ils se sont adressés à Abu Talib, qui est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est là pour le soutenir, pour l'épauler. Pourquoi Abu Talib? Parce que c'est son oncle, et il est issu de ces deux tribus dont nous parlons, de celle de Hashim. Il fait partie de la descendance de Hashim. Hashim qui est un des arrière-grands-parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont demandé d'arrêter de secourir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de le laisser afin qu'il soit tué. Et ils ont proposé plusieurs choses. Ils lui ont proposé de l'argent, des biens, ils lui ont proposé un rang dans la société, ils lui ont aussi proposé que quelqu'un d'extérieur du peuple de Quraysh l'assassine, c'est-à-dire assassine le messager, alayhi salatu wassalam, comme ça on ne pourra pas dire les gens de Quraysh ont tué un de leur peuple. Elles ont proposé beaucoup de choses qui ont toutes été refusées. Elles ont toutes été refusées. D'ailleurs, souvenez-vous, ce poème qui a été écrit par Abu Talib en défense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit à son neveu, « Wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim hatta wasada fi turabi dafina. Fasda' bi amrin ma alayka ghadavatun. وابشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Dans ces vers poétiques, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je jure par Allah qu'ils ne t'atteindront pas avec leur groupe. Cela jusqu'à ce qu'on m'enterre, c'est-à-dire jusqu'à ma mort. Ensuite, il lui dit, alors, fais preuve de bravoure dans l'appel qu'on t'a chargé de transmettre et réjouis-toi. C'est-à-dire, réjouis-toi de ma protection et de ma défense. Et c'est suite à tout cela qu'a eu lieu ce blocus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à ça, longtemps après, a fait les éloges de Banu al-Muttalib, en les faisant entrer dans ce qu'on appelle Ahlul Bayt, c'est-à-dire les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les gens de sa famille, ceux qui sont issus de lui, alayhi salatu wa sallam, et de sa lignée, de sa généalogie, alayhi salatu wassalam. Et ils ont un rang particulier. Et ils ont un amour particulier dans l'islam. Et ils ont beaucoup de caractéristiques qui leur sont propres, qui montrent leur mérite. Al-Muttalib, la descendance d'Al-Muttalib, a été annexée à cette famille, Ahlul Bayt. Pourquoi ? Parce qu'ils ont porté secours au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a rapporté que deux compagnons sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est Jubair ibn Mut'im. Le deuxième, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Jubair ibn Mut'im faisait partie de la descendance de Nawfal. Souvenez-vous, nous avons parlé de quatre frères qui se sont séparés en deux. Deux qui prennent la défense du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et deux autres qui les abandonnent. Ou bien la descendance de ces deux prennent la défense et la descendance des deux derniers abandonne le prophète, alayhi salatu wassalam. Jubair ibn Mut'im, un des compagnons, était issu de la descendance de Nawfal, la descendance qui n'a pas secouru le prophète, alayhi salatu wassalam. Uthman ibn Affan est issu de la descendance de Abdou Shams, le deuxième, ceux qui n'ont pas défendu le prophète, sallallahu alayhi wassalam. Ces deux sont allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car ils le voyaient faire des dons à ceux qui étaient issus de Al-Muttalib. À ceux qui étaient issus de Al-Muttalib. C'est-à-dire ceux qui ont pris sa défense. Ils lui ont dit, donc ils ont été voir le prophète, alayhi salatu wa sallam, pour lui dire, U'tita ou a'taita bani Al-Muttalib, wa nahnu wa hum minka bimanzilatin wahida. Nous, t'avons vu faire des dons à la descendance de Al-Muttalib, alors que nous sommes, par rapport à toi, égal à eux. Donc regardez, nous avons quatre personnes. Nous avons Hashim, d'où est issu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons Al-Muttalib, Nawfal, Abdou Shams. Ils se sont divisés en deux, dans leur descendance. La descendance de Hashim, d'où est issu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celle de Al-Muttalib, a pris la défense du prophète. La descendance de Abdou Shams et Nawfal n'a pas pris la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ici, sous la descendance de Hashim, a fait des dons à la descendance de Al-Muttalib. Et eux deux, qui sont ses deux compagnons, venu faire des réclamations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont issus de la descendance de Abdou Shams et Nawfal. Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, ô messager d'Allah, on te voit faire des dons à Al-Muttalib, alors que nous sommes tous pareils. C'est-à-dire, nous sommes tous issus des frères de Hashim. Pourquoi tu fais différence entre nous? Vous avez compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, فقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. Il leur a dit, la descendance de المطلب et celle de Hashim ne sont qu'une seule et même chose. Qu'est-ce qui a fait que la descendance de المطلب a rejoint celle de Hashim, d'où est issu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le secours apporté au prophète alayhi salatu wa sallam par ces derniers. C'est pourquoi les savants ont compter la descendance d'Al-Muttalib dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce blocus, certains parmi ceux qui ont éprouvé de la pitié pour les croyants, et ce blocus, sachez qu'il a duré 3 ans, 3 ans de famine, 3 ans de difficultés, d'endurance et de patience, dans le but d'obéir à Allah Azza wa Jal et de secourir l'islam. Pendant ce blocus, il y avait des gens de Quraysh qui avaient de la compassion et de la pitié pour les compagnons à qui on a infligé ce blocus. Alors ils partaient la nuit avec de la nourriture, avec du blé, avec de l'orge, pour qu'ils puissent faire du pain, pour qu'ils puissent manger un minimum. Et quand Quraysh voyait ces gens-là en cachette, aller donner de la nourriture au prophète ou aux compagnons, radiallahu anhum, il leur infligeait des sévices et il les frappait lourdement. Donc nous allons lire la suite. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit « وَهُنَاكَ عَمِلَ أَبُو طَالِبٍ وَانْحَازَ إِلَى الشِّعْبِ بَنُ هَاشِمٍ وَبَنُ الْمُطَّلِبِ مُؤْمِنُهُمْ وَكَافِرُهُمْ إِلَّا أَبَا لَهَبْ لَعَنَهُ اللَّهِ فَإِنَّهُ ظَاهَرَ قُرَيْشًا وَبَقُوا تِلْكَ الْحَالِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ نَحْوًا مِنْ 3 سِنِينَ وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد الشمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. Donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit, les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib, musulmans et croyants, à l'exception notoire d'Abu Lahab, qu'Allah le maudisse, ainsi que ses enfants, trouvèrent refuge sur les terres d'Abul Muttalib, où ils vécurent près de 3 années, subissant un blocus oppressant. C'est là qu'Abu Talib composa son fameux poème qui débute ainsi, « Qu'Allah punisse le clan de Abdul Shams et celui de Nawfal ». Souvenez-vous, Abdul Shams et Nawfal, les deux générations ou les deux tribus qui n'ont pas secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est issu de la descendance de Hashim, écrit des vers poétiques dans lesquels il invoque Allah azza wa jal contre ces gens-là, car ils n'ont pas défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'Allah punisse le clan de Abd al-Shams et celui de Nawfal. Et dans le reste des vers poétiques, il lui dit, il leur dit, et qu'il leur inflige une dure punition, empressément, qui n'est pas retardée. C'est-à-dire qu'Allah les châtie le plus rapidement possible. Et ensuite, bon, on va lire la suite. ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش فكان القائم في أمر ذلك فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة ابن الحارث بن حبيب ابن جذيمة ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة الأرضة حيوان تأكل فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل فكان كذلك ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة وحصل الصلح برغم من أبي جهل من أبي جهل عمرو بن هشام. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit, puis les membres de la tribu de Quraysh s'employèrent à rompre le pacte dont les termes avaient été consignés sur le parchemin. Allah azza wa jal a mis dans le cœur de gens de Quraysh, on ne parle pas de croyants, de rompre ce pacte. Allah azza wa jal a fait en sorte que des gens de Quraysh qui sont eux-mêmes amenés à respecter ce pacte, il a mis dans leur cœur l'envie de rompre le pacte et de l'annuler complètement, d'annuler ce blocus. Allah Azza wa Jalla a mis la pitié dans leur cœur. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été pour le déchirer. À l'origine de cette initiative se trouvait Hisham ibn Amr jusqu'à la fin du nom. Il alla trouver Mut'im ibn Adi et un certain nombre de membres de la tribu de Quraysh qui accueillirent favorablement sa proposition. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, informa alors sa tribu qu'Allah avait envoyé des vers qui avaient rongé l'ensemble du parchemin, à l'exception du nom d'Allah Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie des miracles d'Allah. Et à travers cela, Allah nous montre qu'il secourt son prophète, qu'il secourt les gens qui appellent à sa religion. Regardez, on a rusé contre eux, On a écrit un pacte sur un parchemin dans lequel on a indiqué qu'on allait infliger ce blocus aux musulmans. Qui est-ce qui va détruire ce pacte ou le rompre? Les gens qui doivent le suivre. Les gens qui eux-mêmes, peut-être, l'ont signé. Allah Azzawajal a mis dans le cœur de ces gens-là de rompre ce pacte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons. Il leur a dit, des vers ont dévoré ce parchemin, sauf les endroits de celui-ci où le nom d'Allah Azzawajal est mentionné. Ils sont allés voir, ils ont vu que de ce parchemin, de ces feuilles, il ne restait que des morceaux de feuilles où il y avait écrit le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal ne met pas de baraka, il n'aide pas, il ne soutient pas ceux qui se font les ennemis de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, celui qui est à l'origine de l'initiative de la destruction ou de la rupture de ce pacte, c'est cet homme-là que l'on appelle Hisham ibn Amr. Et Hisham ibn Amr est allé voir Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi est un homme qui est mort dans le polythéisme. Il n'a pas adhéré à l'islam, mais il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a secouru. À quel moment? Sachez que dans cette même année, il y a eu le décès de deux personnes proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première personne, c'est Abu Talib. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort en l'an 10 de l'envoi, pas de l'émigration. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quel âge? Il avait 50 ans quand son oncle est mort. Son oncle était son soutien principal. Il était pour lui un pilier pour le défendre et le secourir. Et il est mort. Il est allé le voir dans l'histoire de sa mort juste pendant l'agonie pour lui dire « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle j'argumenterai en ta faveur devant Allah. » Son oncle a refusé. Il est mort mécréant. Et Allah Azza wa Jalla a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer Allah en sa faveur, car il est mort sur l'association Allah, le polythéisme. Quelques jours après seulement, Khadija est morte. La première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première personne à avoir soutenu le messager d'Allah Azza wa Jalla moralement et aussi financièrement. Donc deux piliers ont quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, suite à ça, vous pouvez vous imaginer combien a été ravi le peuple de Quraysh, puisque la personne principale qui défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte. Donc il sera pour eux plus facile de toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un mal. Donc nous allons lire la suite inshallah ta'ala. واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كان فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة إلا السكران ابن عمرو زوج سودة بنت زمعة فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وإلا سلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة فإنهما احتبسا مستضعفين وإلا عبد الله ابن مخرمة ابن عبد العزة فإنه حبس فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. ابن كثير رحمه الله تعالى أدي Et effectivement, les choses s'étaient déroulées comme indiqué. Les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib retournèrent donc à la Mecque, donc après le blocus, et la réconciliation fut scellée entre les différents clans de Quraysh, en dépit de Amr ibn Hisham, plus connu par son surnom Abu Jahl. Abu Jahl était un des pires ennemis de l'islam. Et il n'a pas supporté cette défaite, car pour lui c'est une défaite. On n'a pas réussi jusqu'ici à anéantir les musulmans. On n'a pas réussi jusqu'ici à atteindre le prophète des musulmans, sallallahu alayhi wa sallam. La rumeur selon laquelle Quraysh avait embrassé l'islam parvint alors aux musulmans installés en Abyssinie. Et encore une rumeur fausse qui s'est répandue jusqu'à arriver en Abyssinie. Quelle est cette rumeur? La rumeur, c'est de dire que les gens de Quraysh se sont convertis à l'islam. Donc si les gens de Quraysh se sont convertis à l'islam, on n'a plus besoin de rester en Abyssinie. On va revenir à la Mecque. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais lorsqu'une partie d'entre eux arriva à la Mecque, ils constatèrent que les musulmans étaient soumis aux mêmes épreuves et aux mêmes persécutions. Ils ont vu en fait qu'il n'y avait rien de tout ce qu'on leur a dit et que ces informations étaient fausses. Ils demeurèrent malgré tout dans la cité c'est-à-dire le village de la Mecque, jusqu'à leur émigration vers Médine, excepté un homme qui s'appelle Sakran, qui est l'époux de Saouda, la fille de Zam'a, qui mourut après son arrivée à la Mecque et avant l'émigration des premiers musulmans vers Médine. Au nombre également de ceux qui ne purent émigrer à Médine, Salama ibn Hisham et Ayyash ibn Abi Rabi'a, qui en furent empêchés compte tenu de leur faiblesse, mais aussi Abdullah ibn Makhrama, qui en fut empêché. Puis, au cours de la bataille de Badr, ce dernier put échapper aux polythéistes et trouver refuge chez les musulmans. Donc ici, il nous a parlé de certains des compagnons qui n'ont pas pu émigrer, qui n'ont pas pu émigrer à Médine. Et l'émigration à Médine, c'est un grand chapitre qu'on va voir après, inshallah ta'ala. Le dernier qu'il a cité a réussi à prendre la fuite et à sortir ou à quitter les Mécois, comment ? Le jour de Badr. La bataille de Badr, c'est une bataille qui n'était pas prévue. À la base, c'était un convoi des habitants de la Mecque, Quraysh, les mécréants, les associataires, qui se dirigeaient vers un endroit pour faire du commerce. Et ils sont passés proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager alayhi salatu wa sallam a entendu que Quraysh était là avec un convoi rempli de marchandises et de vivres, et ici nous sommes dans un contexte de guerre, de bataille, donc de butin de guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une équipe pour les attaquer et leur prendre leur vivre ou ce qu'ils possédaient. Et suite à ça a découlé la grande bataille de Badr. Et les musulmans ont gagné. Dans cette bataille de Badr, les gens de Quraysh étaient accompagnés de certains musulmans qui étaient faibles. Parmi ces musulmans, Abdullah ibn Makhrama, qui à ce moment-là a saisi l'occasion pour sortir du rang des kuffars de Quraysh et rejoindre ses frères, les musulmans, walhamdulillah. Et avec cela, on a fini le chapitre qui concernait le blocus infligé aux musulmans et aux croyants. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, va maintenant parler de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction du village de At-Ta'if, le village d'où a été chassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن كثير رحمه الله تعالى خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب وكان بينهما ثلاثة أيام فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب وآذوه أذى عظيما لم ينل قومه منه أكثر مما نالوا منه. Donc, le prophète صلى الله عليه وسلم a eu beaucoup de choses, il a rencontré, beaucoup d'épreuves pendant cette année. La mort de son oncle, et aussi le malheur qu'il ne s'est pas converti à l'islam, la mort de son épouse Khadija radiallahu anha. Suite à tout ça, les ennemis ont commencé à se rapprocher de lui, à essayer de le tuer, à essayer de lui faire du mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de quitter Mecca pour aller à Taif. Pour aller à Taif pour leur demander l'asile et la protection. Et il est d'ailleurs sorti. Et quand il est arrivé là-bas, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait chasser. Il s'est fait chasser. Et d'ailleurs, ce sont les enfants de Taif et les faibles d'esprit parmi eux qui l'ont chassé en le lapidant, en lui lançant des pierres, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est sorti, il était accompagné de Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha. Il est allé à Taif avec Zayd ibn Haritha, qui est l'esclave affranchi, dont on a parlé, qui fait partie des premiers convertis à l'islam. Il est allé avec lui à Taif. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit: la rupture du pacte dirigé contre les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib coïncida avec la mort de Khadija et celle d'Abu Talib, que seuls 3 jours séparèrent. Donc Abu Talib est mort et 3 jours après, Khadija, radiyallahu anha. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut alors plus durement éprouvé par les insensés, ou bien on peut dire aussi les faibles d'esprit, de son peuple qui fut de plus en plus enhardi à sa rencontre. C'est comme ça qu'on dit, Abdul Ghani. C'est la troisième ligne, la quatrième ligne. Enhardi. Enhardi à son encontre. Barakallahu fi. Donc, il se sentait plus fort contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit donc à Taif, où il espérait trouver un asile, des soutiens et une protection contre son peuple. Il invita donc ses habitants à se soumettre à Allah Tout-Puissant. Mais plutôt que de répondre à son appel, ils le maltraitèrent plus durement encore que son propre peuple. De retour, il entra à la Mecque sous la protection de Al-Mut'im ibn Adi. Et on parlera de ce passage plus loin, inshallah ta'ala. Donc, ici, il nous enseigne que suite à la mort de ses deux proches, Abu Talib et Khadija, les kuffars de Quraysh ont redoublé de dureté à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui l'a poussé à fuir à Taif, en compagnie de Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Quand il est arrivé à Taif, il s'avère que les gens de Taif se sont conduits avec lui de la même manière que Quraysh s'est conduit avec lui. Ils l'ont pris à la dérision, se sont moqués de lui. Ils lui ont jeté des pierres et ils ont envoyé les gamins de la ville. Les gamins de la ville et les gens, les faibles d'esprit, les sots, pour lui lancer des pierres, sallallahu alayhi wa sallam, pour le chasser de Taif. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, porte le message d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il quitte un endroit où on ne l'accepte pas, pour un autre, peut-être que dans celui-ci, on va l'accepter. Et quand il arrive dans ce deuxième endroit, il se rend compte que les gens n'ont aucune différence avec les gens du premier endroit. Et ils ont tout fait pour le rabaisser, sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous allez voir, inshallah, en étudiant sa biographie, que tout cela faisait partie de la sagesse d'Allah, azza wa jal. Et que derrière tout ça, Allah ta'ala avait caché un résultat immense de toute cette endurance, de toute cette patience, puisque tous ces gens-là vont se convertir à l'islam par la suite. Donc ils ont chassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont refusé d'accepter son message. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté selon Aisha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté un peu ce qui s'est passé durant son déplacement, si on peut l'appeler comme ça, vers Taif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, lui dit: Ya Rasulallah, hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud? Au messager d'Allah, t'est-il venu un jour plus dur que le jour de Uhud? Uhud, on va le voir dans un chapitre, inshallah, c'est une grande bataille. Faqa, le prophète a dit, لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ. Le prophète lui dit donc, j'ai certes subi de ton peuple, ô Aïcha, et la plus dure chose que j'ai subie de ton peuple, c'était le jour de Al-Aqaba. Ça viendra, inshallah, dans un chapitre. Plus loin, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي. Je me suis donc dirigé, c'est-à-dire vers Taïf, pris par les soucis, angoissé. فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ. Et donc, jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit qu'on appelle Qarn al-Tha'alib. À ce moment-là, il a repris conscience. Donc, il était rongé par le souci, sallallahu alayhi wa sallam, que son message n'est pas accepté. Jusqu'à arriver à cet endroit. Il dit, فَرَفَعْتُ رَأْسِي. J'ai donc levé ma tête. فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي. Pour m'apercevoir qu'un nuage est venu m'ombrager. Comme ça qu'on dit? M'ombrager. فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلِ فَنَادَانِي. J'ai regardé vers ce nuage et j'ai vu Jibril qui m'a appelé. Jibril est un ange d'Allah Azza wa Jal. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكْ وَمَا رَدُّ عَلَيْكَ. Jibril m'a dit, Allah exalté soit-il, a entendu la parole de ton peuple et il a vu comment ils t'ont répondu. C'est-à-dire, il a vu qu'ils ne t'ont pas accepté. وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. Et il t'a envoyé l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce que tu veux qu'il fasse de ces gens-là. Jibril est venu avec l'ange des montagnes. Taif est un endroit qui se situe, si on peut dire, dans une vallée entre deux grandes montagnes. Jibril est venu avec l'ange des montagnes et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a vu le comportement de ces gens-là. Il a vu que ces gens n'acceptent pas ton message. Il m'a envoyé avec l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce qu'il veut. Si tu veux, il fait écraser ces deux montagnes et alors tous ses habitants mourront. Donc plus loin, il dit, قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ. L'ange des montagnes m'a appelé. وَسَلَّمَ عَلَيْهِ. Il m'a salué. ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّد. Puis il m'a dit, oh Muhammad, إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكْ. Allah a entendu la parole de ton peuple. وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ. Je suis l'ange des montagnes. وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ. Et ton Seigneur m'a envoyé vers toi pour que tu m'ordonnes ce que tu veux. إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْبَشَيْنِ. Si tu veux, je resserre contre eux ces deux montagnes. Les montagnes qui sont énormes, l'ange des montagnes dit, si tu veux, je les resserre contre eux. Contre qui? Ces gens qui se sont moqués de lui et qui lui ont lancé des pierres, qui n'ont pas accepté son message. Regardez la situation. On a humilié le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On lui a lancé des pierres. Ce sont les enfants, les gamins qui lui ont lancé des pierres. On l'a chassé. Il est parti. L'ange des montagnes arrive et lui demande, est-ce que tu veux que je resserre contre les montagnes? Et il est dans son droit de dire oui, sallallahu alayhi wa sallam, puisque cet ange est envoyé par Allah. C'est Allah azzawajal qui a envoyé cet ange pour lui dire, on fait ce que tu veux. Ce que tu veux, je le fais. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est envoyé comme miséricorde pour les mondes. Il est envoyé pour montrer le bon exemple, pour guider les gens par la permission d'Allah à l'islam. Il dit, فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam, bal arju an yukhrij Allah min aslabihi man ya'budu Allah wahdahu la sharika wahdahu la yushriku bihi shay'a. Il dit non, j'espère que va être issu de ces gens-là un homme qui adorera Allah sans rien lui associer. Regardez, subhanallah, le souci du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un peuple l'a rejeté. Un peuple a essayé de l'humilier. Un peuple l'a lapidé. Un ange d'Allah Azza wa Jal est envoyé. Cet ange lui dit, Allah m'a dit de te dire que tu m'ordonnes ce que bon te semble. Et si tu veux, je serre les deux montagnes et on les écrase tous et ils sont morts. Est-ce qu'il a dit, oui, fais-le? Est-ce qu'il a pensé à sa personne, à son ego, comme on le fait quand quelqu'un nous fait un mal? On ne pense qu'à notre personne? Il ne pense pas à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se soucie pas qu'on se moque de lui, qu'on l'insulte, qu'on lui lance des pierres. Ça n'a aucune importance devant lui. La seule chose qui est importante à ses yeux, c'est qu'on adore Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Si dans ce bas monde on le fait du mal, ça n'est en rien un mal pour lui, car par cela Allah ne fait que de l'élever en degré et il entrera au paradis. Mais comme il veut que les gens adorent Allah azza wa jal, il a dit non, ne le fais pas, car je souhaite qu'il sera issu de ces gens-là ceux qui adoreront Allah azza wa jal seul et sans rien lui associer. Et Allah azza wa jal a exaucé et ont été issus du peuple de Taif des gens qui n'ont adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associer. Donc après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de revenir à la Mecque. Et quand il est revenu à la Mecque, il est allé voir les notables, les gens aisés, les gens reconnus, respectés, pour chercher un soutien. Il a demandé la protection et l'asile aux gens de la Mecque. Et les gens ont refusé. Jusqu'à arriver à cet homme-là qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi, duquel va parler Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Al-Mut'im ibn Adi a accepté de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la protection de Al-Mut'im ibn Adi. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit, de retour, il entra à la Mecque sous la protection de Al-Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abd Manaf et poursuivit sa prédication. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplace d'un endroit à un autre, non pas à la recherche de la dunya, à la recherche de la prédication, pour appeler les gens à Allah azza wa jalla. On ne l'accepte pas dans un endroit, il va vers un autre endroit. On ne l'accepte pas, il va vers un autre. Et partout où il passe, partout où il va, il appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va lire, d'abord je vais lire en arabe. Il dit, فَرَجَعَ عَنْهُمْ وَدَخَلَ مَكَّةَ فِي جِوَارِ الْمُطْعِمِ ابْنِ عَدِيِّ ابْنِ نَوْفَلْ ابْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَجَعَلَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَأَسْلَمَ الطُّفَيْلِ ابْنُ عَمْرٍ الدَّوْسِ وَدَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ آيَةً فَجَعَلَ اللَّهُ فِي وَجْهِهِ نُورًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْشَى أَنْ يَقُولُوا هَذَا مُثْلَهُ فَدَعَا لَهُ فَصَارَ النُّورُ فِي سَوْطِهِ فَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِذِي النُّورِ وَدَعَ الطُّفَيْلُ قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ فَأَسْلَمَ بَعْضُهُمْ وأقام في بلاده فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. ابن كثير رحمه الله تعالى أجي الطفيل ابن عمرو الدوسي أمغسا ألغ الإسلام. الطفيل ابن عمرو الدوسي est un homme qui était éloquent dans les paroles. Il connaissait la poésie, il connaissait la langue arabe et il savait l'utiliser. Avant qu'il arrive à la Mecque, les koufars de Quraysh se mettaient à l'entrée et aux abords de la Mecque pour intercepter toute personne qui arrivait à la Mecque, car c'était une contrée où les gens allaient, que ce soit pour le commerce ou pour accomplir le pèlerinage. Comme on l'a dit, ils accomplissaient un pèlerinage avant, ils allaient à la Kaaba. Ils allaient donc à l'entrée de la Mecque pour intercepter toute personne qui arrivait à la Mecque. Pourquoi ? Qui est-ce qui a la réponse ? Pourquoi ? Naam. Pour les empêcher, pour les dissuader de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils se mettaient à l'entrée de la Mecque et ils disaient « Muhammadun majnoun, Muhammadun kada, Muhammadun kada, Muhammad est fou, Muhammad, il ne faut pas l'écouter, c'est un menteur, c'est un sorcier, faites attention, un homme s'appelle Muhammad, il dit être envoyé par Allah, il dit être le messager d'Allah. » Et voilà que ils essayaient de ternir l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but que ses suiveurs ou dans le but que les gens ne le suivent pas sallallahu alayhi wa sallam. At-Tawfal ad-Dawsi est un homme qui connaît la poésie, qui connaît la langue arabe. Qu'est-ce qu'il fait quand il entre à la Mecque? Il met du coton dans ses oreilles pour ne pas entendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au bout d'un moment, il se dit, je suis doué de raison, j'ai toute ma raison, je comprends la langue arabe, je sais ce qu'elle représente, je la connais, je sais l'utiliser, je vais écouter cette parole. Si cet homme-là est véritablement un sorcier, un voyant, etc., alors je vais le voir, puisque je m'y connais dans cette langue. Par contre, si c'est la vérité, alors peut-être qu'il y aura autre chose. Il est parti écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a entendu le Coran. Il a dit, je connais la poésie, je connais la langue arabe. Cette parole n'a rien à voir avec la poésie. Elle n'est pas la parole d'un homme. Et il a adhéré à l'islam. Et c'est comme ça qu'il s'est converti à l'islam. Radiallahu anhu. Puis il dit, embrassa alors l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora Allah de lui donner un signe. Allah azza wa jal a invoqué Allah pour qu'il donne un signe à Tawfail. Pourquoi? Tawfail a un peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que le peuple de Tawfail entre dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son prêche, il réfléchit. Il est sage. Il regarde qu'est-ce qu'il va choisir. Car il sait que si les têtes se convertissent, les autres vont suivre. Et alors les musulmans vont grandir. Donc, il décide d'invoquer Allah azza wa jal pour mettre un signe à Tawfail, pour convaincre son peuple. Allah fit naître une lumière sur son visage. Et alors Tawfail a eu une lumière resplendissante sur son visage. Mais Tawfail lui fit remarquer, ô messager d'Allah, je crains qu'il ne dise qu'il s'agit d'une mutilation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua de nouveau Allah en sa faveur, si bien que la lumière se retrouva dans son fouet, le fouet qu'il avait en ses mains. At-Tawfail exhorta lui-même les siens à se soumettre à Allah, ce que fit une partie d'entre eux. Donc une partie de son peuple s'est convertie à l'islam. Il demeura dans sa patrie, jusqu'au jour où Allah ouvrit les portes de Khaybar à son messager. Khaybar, c'est un chapitre qu'on va voir, inshallah, c'est une conquête qui a apporté énormément de butin aux compagnons. Après Khaybar, ils sont devenus riches à un point, ils ne savaient même plus quoi faire de ce qu'ils avaient en leur possession. At-Tawfail entra alors à la Mecque accompagné de près de 80 familles. Et donc, dans ce passage, on retire beaucoup de leçons. Et parmi les plus importantes, on voit l'exemple du prêcheur Allah Azza wa Jal. Celui qui appelle au Coran et à la Sunna. Celui qui invite les gens à l'islam, pur, authentique, qui invite les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, va avoir des ennemis. Ennemis de l'extérieur et ennemis de l'intérieur. Qui sont les ennemis de l'extérieur? Les mécréants, les associateurs. Les ennemis de l'intérieur, les hypocrites, puisqu'en apparence ils se font passer pour des musulmans. Et parmi les ennemis de l'intérieur qui sont arrivés après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-mubtadi'a, les innovateurs, les gens qui suivent les sectes et les groupes égarés. Et à chaque fois que le prêcheur va appeler au Coran et à la Sunna, il va avoir des ennemis. Et ces ennemis vont tenter de ternir son image. Pourquoi? Car ils sont en rupture d'arguments. Avec les arguments, ils ne pourront pas te convaincre. Comme avec les arguments, ils ne pourront pas te convaincre, toi le prêcheur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ternir ton image. Ils vont aller faire croire aux gens que tu es mauvais. Ils vont faire croire aux gens que tu n'aimes pas les musulmans. Ils vont faire croire aux gens que tu manques de sagesse, que tu veux du mal aux musulmans, que tu es dur dans ton prêche, etc., etc. Et l'histoire se renouvelle. Les gens de la Sunna vivent en ces jours-là que nous vivons. Ils vivent ces histoires-là que l'on lit et que l'on étudie. Ils les vivent. Par Allah, ils les vivent. Quand ils s'efforcent d'appeler les gens à la Sunna, de les éloigner de la bid'a, de l'innovation, on dit d'eux qu'ils sont mauvais. On dit d'eux qu'ils veulent du mal. À titre d'exemple, tout d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on prenait des exemples concrets de nos savants, Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, ce grand imam, reconnu parmi les grands savants, qui est fort, qui a été aimé par Ibn Baz, rahimahullah, par son cheikh, Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala. Cet homme-là est venu de l'Éthiopie. C'est un Africain d'Éthiopie. Il a quitté l'Éthiopie avec son ami pour aller accomplir Al-Hajj à la Mecque. Et il l'a fait à pied. Et quand il est arrivé au Yémen, aux dernières frontières, avant d'arriver dans la péninsule arabique, où il va accomplir son Hajj, des gens d'une secte égarée l'ont intercepté et lui ont dit « Fais attention à l'Wahhabiyya. Fais attention aux Wahhabites. » Ce mot qu'on entend partout dans nos pays. Hein? Fais attention, il y a des gens qui sont mauvais, qui veulent du mal aux musulmans, qui. Et on a essayé de le tenter, de le dissuader, de suivre la sunna avec ses appellations qui n'ont aucun fondement, qui n'existent pas. Personne s'appelle Wahhabiyya. Personne dit aux gens de suivre l'Wahhabiyya. Donc, quand il est entré à la Mecque et qu'il a pris connaissance des savants et qu'il s'est mis à étudier, il s'est aperçu que c'était une rumeur qui avait pour but de le dissuader de suivre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec Ibn Baz, rahimahullah. On l'a fait avec Al-Uthaymin, on l'a fait avec Sheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a secouru ses alliés et a mis de la baraka dans le prêche de ces gens-là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les musulmans lisent leurs livres. Et même parfois, des musulmans font la prière. Ils ne savent même pas que c'est Ibn Baz qui leur a appris à faire la prière. Ils ne savent même pas que c'est Cheikh Muqbil, rahimahullah, qui leur a enseigné comment avoir la bonne croyance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont lu des livres qui ont été traduits dans leur langue. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le prêcheur à la vérité, on va essayer de déformer son nom, de salir sa réputation. Mais s'il maintient son chemin et il persiste dans l'ordre d'Allah Azza wa Jal, il sera secouru par Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, inna la nansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous apporterons le secours à nos messagers et à ceux qui ont cru dans ce bas monde et le jour dernier, ce qui veut dire le jour dernier. Donc c'est ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il y a également un homme dont l'histoire nous est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah, et c'est avec ça qu'on va s'arrêter, inshallah ta'ala, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu an. Un homme qui s'appelle Dhimad, Dad, Mim, Alif, Dal, Dhimad, est arrivé à la Mecque. Cet homme-là venait du Yémen, de la tribu de Shanaoua, na'am. Cet homme-là était connu pour la ruqya. Il avait l'habitude de faire des incantations aux malades. Il s'y connaissait dans ce domaine. Il y avait des ruqya qui étaient interdites, qui relèvent de l'acte d'association, comme vous l'avez vu dans le kitab Tawhid avec Ibrahim. Et il y avait des ruqya qui étaient permises. Lui, il savait les faire, ces ruqya-là. Et donc, il avait l'habitude de soigner les gens par la ruqya. Quand il est arrivé à la Mecque, il a entendu les faibles d'esprit dire « Mohammed est fou. Mohammed a perdu la raison. » فَقَالَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلْ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدِي. Il a dit « Si je rencontre cet homme-là, donc ici il n'est pas encore musulman, il entend qu'il y a un homme qui s'appelle Mohammed qui appelle à l'islam et cet homme-là en vérité il est fou, il a perdu la raison. Comme il s'y connaît dans la ruqya, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, quand je vais rencontrer cet homme, je vais lui faire ruqya, peut-être qu'Allah va le guérir. Et il ne sait pas qu'Allah Azzajal va guérir lui par le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la maladie du kufr et du shirk. Qala falaqiyya. Il a donc rencontré le messager d'Allah. Faqala ya Muhammad. Il lui dit, oh Muhammad, inni arqi min hadhihi rih. Je pratique l'incantation par le soufflet. Il souffle, comme vous l'avez vu. وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ يَشَاءَ. Et Allah guérit par ma cause qui il veut. فَهَلْ لَكَ. Veux-tu ? C'est-à-dire, veux-tu que je te fasse ruqya ? Écoutez bien ce hadith, il est azim, il est immense, il est magnifique. Donc ici, il croit qu'il s'adresse à un majnoun, à un malade. Il s'adresse au messager d'Allah. Il lui dit, oh Muhammad, Moi, je sais faire la ruqya. Je sais traiter et soigner les malades. C'est Allah qui les guérit par ma cause. Est-ce que tu veux que je te soigne? Tu veux que je m'occupe de toi, de ta maladie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, lui dit. Donc, après que lui a parlé, le prophète lui dit, Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ce qu'on appelle خطبة الحاجة. Les paroles avec lesquelles on commence la khutba, vous les entendez tous les vendredis et avant le discours. Ces paroles, quelles sont la traduction de ces paroles? Certes, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons et implorons son aide. Celui qu'Allah quitte, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et je témoigne que nulle autre divinité qu'Allah n'a le droit à l'adoration, seul, sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Ceci dit, et là le prophète, il veut parler de quelque chose, et Dhimad, l'homme qui arrive et qui croit qu'il va soigner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est épaté par ses paroles. Il n'a jamais entendu des paroles comme ça. Il s'arrête et il lui dit, قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء. Répète-moi ces paroles. Répète-moi ces paroles. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. Et le prophète عليه الصلاة والسلام lui dit إن الحمد لله نحمده ونستعينه. Et il répète ça trois fois. Et lui est là et écoute très attentivement. قال فقال لقد سمعت قول الكاهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلمات هؤلاء ولقد بلغنا نعوس البحر. Il dit, après méditer, il dit, certes, j'ai entendu les paroles des devins, j'ai entendu les paroles des sorciers, j'ai entendu les paroles des poètes, et elles n'ont rien à voir avec ces paroles-là. Elles n'ont rien à voir avec ces paroles-là, elles n'ont aucune ressemblance avec ces paroles-là. Il dit, فَقَالَ هَاتْ يَدَكْ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ. Donne-moi ta main, que je te prête allégeance pour adopter l'islam comme religion. قَالَ فَبَايَعَهُ. Il a donc serré la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam et est devenu musulman. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam وَعَلَى قَوْمِكَ. Il lui dit, je te prête allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et ton peuple aussi. C'est-à-dire, tu t'engages aussi à ce que ton peuple entre dans l'islam. Pourquoi? C'est une tête dans son peuple. Et le prophète sait comment appeler les gens à l'islam. Et en général, la tête du peuple qui fait quelque chose va être suivie par le peuple. قَالَ وَعَلَيَّ قَوْمِي. Il dit, oui, mon peuple aussi. C'est-à-dire, mon peuple aussi va te suivre. قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une expédition militaire. Donc c'est plus tard, plus loin. Il a envoyé une expédition militaire. Ce sont des compagnons qui, on va dire, font les contrées des ennemis pour les appeler à l'islam. Et quand ils sont passés par ce peuple, ils ont pris quelque chose du butin. Et quand on a demandé, vous avez pris quelque chose? Oui, répondirent-ils. On leur a dit, rendez-leur, car ils sont le peuple de Dhimad. Donc le peuple qui a adhéré à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est ainsi que s'achève le chapitre concernant le déplacement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taif, puis son retour à la Mecque, et le soutien qu'on lui a apporté quand il est revenu à la Mecque. Et on reprend inchallah samedi prochain avec le voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.